Studio Tamani, voici les informations en français.
Vous nous écoutez en direct à Mopti, la Venise malienne, sur la radio Kaoural au 100.5 FM. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Voici les titres de ce journal. L'ONG Human Rights Watch impute de graves violations des droits de l'homme à l'armée malienne et à des soldats étrangers. De son côté, le gouvernement dément formellement ces allégations. Grève répétitive des hôpitaux, des organisations des droits de l'homme indiquent être à pied d'œuvre pour une issue favorable. Elles affirment que plusieurs tractations ont été déjà faites. Le dossier de la semaine s'intéresse au transport des matériaux de construction. Des citoyens déplorent les conditions de transport de ces matériaux. À la présentation, Hamsetou Touré, des dizaines de civils ont été sommairement exécutés et d'autres portés disparus entre décembre 2022 et mars 2023. C'est ce qui ressort du dernier rapport de l'ONG Human Rights Watch publié ce lundi 24 juillet. Selon l'ONG de défense des droits humains, ces violations commises dans le centre du Mali ont été perpétrées par l'armée et des soldats étrangers qui lui sont associés. Dans un communiqué, le gouvernement du Mali a protesté énergiquement contre ce rapport. Khalifa Goïta.
Le gouvernement du Mali réfute ce qu'il qualifie d'allégations infondées contre les forces armées maliennes. Pour les autorités maliennes, les graves accusations de représailles contre les villageois et de punitions collectives à leur encontre sont inacceptables. Aussi censure-t-elle contre la légèreté avec laquelle ces allégations ont été faites. Le gouvernement assure que les FAMA accomplissent leur mission régalienne de défense de l'intégrité territoriale et de protection des personnes et de leurs biens. Le gouvernement invite Human Rights Watch à s'inscrire dans une démarche impartiale, non biaisée, équilibrée et objective, tout en rappelant que les forces maliennes sont largement outillées sur les questions des droits de l'homme et des droits internationaux humanitaires. Publié ce lundi, le rapport de Human Rights Watch impute à l'armée des exactions dans les villages de Sossobé, Tiofol, Séguéla et Wankoro dans la région de Mopti et Ségou. C'était au cours d'opérations militaires en réponse à la présence des groupes armés islamistes dans ces localités. Précise l'ONG. Le document note aussi des cas de torture de détenus dans un camp militaire, de destruction et de pillage de biens appartenant aux civils par l'armée. Selon l'ONG, 40 personnes ont témoigné par téléphone l'implication d'hommes étrangers armés.
Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. 10 assaillants neutralisés, un militaire tué et des matériels de guerre récupérés. C'est le bilan de l'attaque hier contre les forces armées maliennes à Molodo, cercle de Nyono, région de Ségou. Au même moment, un jeune a été tué à Gao par des hommes armés. Oumar Waïgalo.
Dans un communiqué de l'état-major général des armées, des terroristes ont mené cette attaque de Molodo à l'aide de deux voitures piégées. Les documents précisent que les forces armées de défense ont rigoureusement riposté. Une dizaine de djihadistes ont été neutralisés, des armes et des munitions ainsi que de divers matériels de fabrication dans un explosif ont aussi été récupérés. Par contre, elles déplorent un mort et 4 blessés. Par ailleurs, ce matin, 2 bis des compagnies de la place en partance pour le Niger ont été victimes de braquages par 3 hommes armés non identifiés à Kobe dans les cercle d'Ansongo. Selon des témoins, les occupants ont été dépouillés de leurs biens avant d'être relaxés. Toujours dans la région de Gao, un jeune a été tué ce dimanche soir par 3 hommes armés au 4e quartier. Informés, la gendarmerie avec l'aide des jeunes ont traqué les bandits jusqu'à dans leur nuit. L'opération s'est soldée par un mort côté bandit, l'arrestation d'un homme et sa femme, des motos, des armes et des munitions récupérées. Au même moment, un autre jeune a été braqué et dépouillé de tous ses biens.
Autre actualité du jour, la société civile de Douanza organise ce mercredi 26 juillet 2023 une manifestation contre le manque d'électricité dans la ville. Elle souligne que cela fait 10 jours que la population est dans le noir, à part l'académie, le lycée et la préfecture. Selon les explications des autorités locales, c'est le central électrique qui est en panne. Bassoma Dit Aminata Isebere est la présidente de la CAFO de Douanza. Elle est jointe par Sali Sissoko.
Ils ont dit que le central électrique a pris feu depuis le lundi 18h. Donc jusque-là, le centre-ville n'a pas de courant. C'est à peu près les préfets, l'académie qui n'est pas aussi stable. Il y a les lycées aussi qui n'est pas aussi que ça. Et puis, je dirais même le goudron. On disait qu'ils avaient fait des commandes, des matériels qui sont un peu gâtés, qui étaient en route. Donc, on ne voit pas de solutions, on ne voit pas de changements aussi. Ça va 10 jours quand même, c'est la première fois. Si on a gain de cause, ça va s'arrêter aujourd'hui. Au cas échéant aussi, c'est sera continuel.
La grève de 72 heures du syndicat national des banques, assurances, établissements financiers et commerces du Mali Sinabef, prévue demain mercredi, est maintenue. Les négociations avec l'État relancées ce lundi ont échoué. Ses responsables l'ont annoncé cet après-midi lors d'un point de presse. Ils réclament 4 points de revendication, dont l'assurance maladie obligatoire, la libération de leurs camarades détenus et le droit acquis. Parlant toujours de grève, des grèves à répétition sont constatées dans plusieurs hôpitaux de Bamako depuis des mois. La situation impacte fortement les usagers de ces structures hospitalières, notamment les malades. Des organisations des droits de l'homme indiquent qu'elles sont à pied d'œuvre pour une issue favorable, mais qui peinent à aboutir. Quant à la population, elle lance un appel aux autorités et aux syndicalistes à trouver rapidement un consensus. Le reportage est signé Sita Sidibé.
Des plaidoyers ont été faits auprès des autorités afin de mettre un terme à ces grèves répétitives. C'est ce qu'affirme Aguibou Boiré, président de la Commission nationale des droits de l'homme.
La grève aussi est un droit, mais il revient à l'État de faire en sorte que les dispositions soient prises pour satisfaire aux revendications. Nous avons tenté une intermédiation à un certain moment. Nous continuerons toujours à appeler l'attention de l'État sur son obligation de faire en sorte que les populations puissent jouir de leurs droits à la santé.
Les responsables de l'Association des consommateurs du Mali disent entamer des démarches depuis longtemps, mais c'est peine perdue, affirme-t-il. Abdul Wahab Diakité, président par intérim de l'ASCOMA.
C'est que l'État est pris en otage par un problème syndical. Les textes sont assez clairs et aujourd'hui, c'est nous, consommateurs, qui faisons les frais. Pour moi, la faute, c'est l'État, pas les syndicalistes. Mais au niveau du projet, j'ai vu les deux syndicats, j'ai vu le directeur, j'ai vu le ministère de la Santé. Nous avons fait beaucoup de démarches.
Les responsables des droits de l'homme rappellent que le droit à la santé pour un citoyen est l'un des droits socio-économiques à préserver.
Il est très fréquent de voir les matériaux de construction transportés par des minibennes ou des tricycles à Bamako et à l'intérieur du pays. Il s'agit entre autres des fers à béton et des portes en vitre, une pratique dénoncée par des citoyens, car selon eux, cela peut provoquer des accidents de circulation. Que disent les textes sur le transport des matériaux de construction? La réponse dans ce dossier de la semaine, réalisé et présenté par Aïssata Diara avec le concours de nos correspondants.
Des citoyens à Sikasso, Yoroso et Kadjolo expliquent que le transport des matériaux de construction peut provoquer des incidents, notamment des graves accidents ou la perturbation de la circulation.
De un, ils obstruent la circulation parce que les morceaux de plastique qu'ils attachent au bout de ces ferrailles, souvent ça se détache. Si c'est des routes non goudronnées, le fait de traîner ces fers sur la route, donc c'est des poussières qui soulèvent, ça empêche la visibilité, ça crée des problèmes respiratoires à ceux qui sont aux abords.
Ceux qui transportent les barres de fer, les matelas, ça gêne parce que ça peut amener l'accident. Souvent quand je vois ça, je panique quoi.
Ça dégrade la route, ça peut provoquer des accidents.
Baba Kamara est un agent d'une quincaillerie à Bamako. Il affirme que son entreprise a des véhicules recommandés pour le transport de leurs marchandises après l'achat par les clients.
Si la quantité est un peu élevée, c'est la charge à nous quoi. Mais si c'est petit, c'est la charge aux clients. On a à peu près 4 véhicules comme ça. C'est protégé parce que les documents qui sont recommandés, nous on fait tout ça là.
Même si spécifiquement dans les textes, rien n'est dit sur le transport de ces matériaux. En cas d'accident, les responsabilités sont partagées entre le chauffeur et le propriétaire du véhicule. Blaise Dena, chef du département Audi, réglementation et circulation routière.
Il n'y a pas de véhicule spécialement dédié au transport de matériaux de construction. Les véhicules dédiés au transport de matériaux de construction sont connus à travers la carte de transport. Donc, en cas d'accident, la procédure est simple. Elle est comme la procédure établie pour n'importe quel accident. Le côté pénal concerne les chauffeurs. Lorsqu'il y a dégâts matériel, les charges, c'est au propriétaire du véhicule.
En outre, de nombreux usagers sont unanimes que les risques auxquels ils sont exposés lors du transport sont énormes. C'est pourquoi des observateurs estiment que les autorités routières doivent penser à prendre des mesures rigoureuses pour la sécurité de la population.
Studio Tamani offre un espace de révision des leçons aux élèves actuellement en vacances. Les parents peuvent faire participer leurs enfants au jeu École à la radio de Studio Tamani du ministère de l'Éducation nationale et l'UNICEF. C'est simple, appelez gratuitement le 37 321 et laissez-vous guider par le service Viamo. Avec ce jeu, testez les connaissances de vos enfants en classe dans l'enseignement fondamental, un jeu avec des chiffres et des lettres. À présent, nous recevons Sékou Gadjigo pour l'introduction du Grand Dialogue. Bonsoir Sékou.
Bonsoir Amsetou.
Alors, de quoi parle le Grand Dialogue de ce soir?
Alors, nous avons prévu de parler de la grève des banques et établissements financiers qui débute demain mercredi sur toute l'étendue du territoire. Nous attendons encore le secrétaire général du SINABEF, Amadoun Ba, qui n'est toujours pas là. Donc ce débat doit se tenir entre Amadou Mba, le professeur Abdoul Karim Diamoutene et Abdel Cheikh Abdelkader Fofana de l'ASKOMA.
C'est noté, Sékou. Vous pouvez retrouver ce journal ainsi que toutes les productions de Studio Tamani via l'application Studio Tamani disponible sur Play Store. C'est ce qui referme ce journal qui vous a été présenté par Hamsetou Touré. Dans un instant, le magazine Toutes les femmes du Mali. Au Mali, les femmes représentent 57% dans l'artisanat. Ces artisanes font des merveilles avec la main dans le domaine de la poterie, bijouterie et de la maroquinerie. Mais elles sont confrontées à des problèmes d'approvisionnement et du coût élevé de certaines matières. Au niveau national, le ministère de l'Artisanat et du Tourisme affirme soutenir le secteur à travers des formations. Le magazine Toutes les femmes du Mali s'intéresse à ces artisanes maliennes et à leur histoire. Il est réalisé et présenté par Fatmata Kodio avec le concours de nos correspondants locaux.
Nous sommes près du marché de Kalabankoura où se trouve une boutique artisanale. À l'intérieur de l'atelier, on y trouve des ornements de femmes et d'hommes accrochés au mur. D'autres articles, comme les colliers, bracelets et éventails, sont exposés. La propriétaire Maria Dambélé, artisane, exprime sa passion pour ce métier.
J'aime les perles. Je vais valoriser les secteurs et montrer l'utilité de nos objets. Nous fabriquons les boucles d'oreilles, les bracelets et autres. Le manque de clientèle et la réalité des perles parfois sont la difficulté auxquelles nous sommes confrontés.
Paddy Kodou est potière à Djalassagou dans le cercle de Bagas en région de Badjangara. Elle a hérité de ses savoir-faire par sa mère. Aujourd'hui, c'est difficile de trouver la bonne qualité de terre pour y réaliser ses œuvres, dit-elle.
Pour fabriquer les pots, nous partons extraire de l'argile et chercher du bois dans la brousse. Nous fabriquons des jarres, des pots pour médicaments et c'est pour les nouvelles mariées. Nous tirons profit et ces revenus couvrent tous nos besoins. Auparavant, nous ne dépensons pas beaucoup. Mais maintenant, il te faut dépenser jusqu'à 5000 francs pour avoir un chariot rempli du bois. Sinon, par jour, je peux fabriquer 10 jusqu'à 20 jarres.
Moussou Dambé est un centre créé en 1998. Il regroupe plus de 150 femmes analphabètes et celles qui ont abandonné l'école de façon précoce. La directrice du centre, Mariam Dambélé, affirme que grâce à l'artisanat, ces femmes sont autonomes.
Le centre a plus de 20 ans d'existence. Nous avons représenté le Mali dans pas mal de foires, notamment l'Allemagne, en France, aux États-Unis, grâce au ministère de l'Artisanat et du Tourisme. J'ai pu aider les femmes à sortir dans la vulnérabilité. Je pense qu'aujourd'hui, le centre lutte contre la pauvreté.
À Gao aussi, les femmes s'activent dans l'artisanat, mais exhortent une aide du gouvernement pour mener à bien leurs activités. C'est le cas du centre Al-Dawla géré par Fatmata Draman Maïga.
Chaque année, 30 femmes sont formées. Nous avons des difficultés parce qu'en réalité, nous voudrons qu'on augmente le quota.
Nous n'avons pas également suffisamment de place pour accueillir ces femmes. Nous voulons bien travailler avec eux, mais nous n'avons pas d'aide.
Il n'existe pas de politique spécifique dédiée aux femmes artisanes du Mali. Toutefois, les ministères de la Culture et de l'Artisanat les accompagnent à travers la formation et des fonds. En tout cas, c'est ce que déclare Dahanias, directeur national de l'artisanat.
Il y avait un projet qui s'appelait PDSA qui octroyait des crédits aux femmes pour pouvoir faire des activités génératrices de revenus. Dans ce cadre, beaucoup de femmes ont été formées, jusqu'à 5, 6 millions, 10 millions. Le plafond, les femmes peuvent avoir ça en fonction de l'envergure du projet. Et tout récemment, on vient d'envoyer 40 femmes au Maroc dans le cadre d'une formation en coupe et couture. Après la formation, toutes les femmes ont été équipées en kit. Il n'y a même pas deux semaines, trois femmes sont revenues du Maroc encore, dans le cadre de la formation en maroquinerie et dans la céramique.
Notons que la majorité des femmes artisanes du Mali évoluent dans l'informel. Et d'autres ont émergé dans le milieu jusqu'à recevoir des distinctions nationales.